Les tickets d'or continuent. Et cette semaine, les magasins U en font deux fois plus pour leurs clients. N'est-ce pas, Sonia?
Eh oui, cette semaine, vous avez deux fois plus de chances de gagner jusqu'à 50 euros carte U. Vous recevez deux fois plus de tickets d'or à gratter, donc deux fois plus de chances de gagner. Dépêchez-vous, c'est la dernière semaine.
Bah, avec deux fois plus de chances, on vient en moins de deux.
U. Commerçant autrement.
Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 8 mars, réservé aux clients carte U. Liste des magasins et règlements du jeu sur magasinu.com ou à l'accueil de votre magasin participant.
Vous écoutez
RMC.
Mercredi 4 mars,
l'info sur RMC.
Il est 6h, Céline Calmanella, les dernières infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. La réforme des retraites adoptée en première lecture à l'Assemblée cette nuit, les deux motions de censure ont été rejetées. Le coronavirus, phase qui va durer sans doute des mois, prévient Emmanuel Macron. 7 cas confirmés dans le Grand Est. Les malades contaminés ont tous participé à un rassemblement religieux qui a brassé plusieurs milliers de personnes à Mulhouse. Quel candidat démocrate pour affronter Donald Trump à la prochaine présidentielle américaine? Super mardi, super Tuesday aux États-Unis. 14 États ont voté, c'est très serré entre Joe Biden et Bernie Sanders. Bienvenue à tous sur RMC. L'Assemblée nationale a donc rejeté les deux motions de censure contre le recours au 49-3. Conséquence, la réforme des retraites a été adoptée en première lecture. Ces deux motions étaient surtout l'occasion d'un baroud d'honneur pour l'opposition. Paul Barcelone.
Avec le 49-3, le gouvernement a au moins réussi à se mettre tout le monde à dos. Dans le sillage des socialistes et des communistes d'André Chassaigne.
J'avoue que vos gargouillis et vos cris me provoquent un certain plaisir à l'oreille.
Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, enrage.
Où ailleurs qu'en France, une loi au contenu inconnu est réécrite par l'exécutif tout seul avant d'être adoptée sans vote.
Sur tous les bancs, les députés s'invectivent. Le chef de file des élus, les Républicains, Damien Abad.
Vous êtes devenus les professionnels de l'amateurisme.
Le Premier ministre mordit frénétiquement la branche de ses lunettes à la tribune. Édouard Philippe justifie son recours au 49-3.
117 heures de travaux. 7 articles adoptés seulement sur les 65 du texte ordinaire. Il aurait fallu, à ce rythme, 8 semaines de débats complets au sein de cette Assemblée pour en arriver à la fin.
L'examen du projet de loi organique débute aujourd'hui. Il prévoit notamment les règles de financement de la réforme. Cette fois, pas de 49-3 possible pour le gouvernement.
Conseil de défense spécial prévu aujourd'hui et présidé par Emmanuel Macron, consacré au coronavirus. Le chef de l'État qui a précisé hier que nous n'étions qu'au début de la propagation du virus.
Nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois. Il est indispensable d'avoir la clarté, la résilience, le sang-froid et la détermination pour freiner d'abord l'épidémie, ce que nous sommes en train de faire, puis lutter contre celle-ci.
Et justement, hier soir, 7 cas ont été confirmés dans le Grand Est. 5 font partie d'une même famille. Tous ont participé à un rassemblement organisé par une église évangélique à Mulhouse entre le 17 et le 24 février. Des milliers de personnes y ont participé, mais l'enquête épidémiologique ne devrait pas être trop compliquée. Selon Philippe Juvin, il est chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou.
Et ça, la spécificité, c'est qu'ils sont très nombreux en un endroit manifestement clos. Donc, il y a une unité de lieu, il y a une unité de temps. On considère statistiquement qu'un patient a la potentialité d'infecter 3 personnes. Donc, vous en avez 7, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Mais oui, potentiellement, il y a un bon nombre de cas qui peuvent apparaître dans cette affaire. Par ailleurs, comme on sait qui était à la cérémonie religieuse, eh bien, il va être plus facile de les retrouver. C'est pas comme dans l'affaire de l'Oise où on court toujours après le patient zéro.
212 cas recensés en France, 4 morts, dernière victime du virus, un homme de 92 ans dans le Morbihan. Des milliers de masques de protection et de flacons de gel hydroalcoolique ont été volés ces derniers jours dans les hôpitaux publics parisiens et marseillais. Les établissements ont renforcé la sécurité de leurs stocks. Je précise aussi que l'État va d'ailleurs réquisitionner tous les stocks et la production de masques de protection produits en France pour les distribuer aux soignants et aux malades. Un arrêté est paru cette nuit au journal officiel. Les soignants de l'hôpital Tenon à Paris qui sont autorisés à reprendre le travail. Une cinquantaine d'entre eux avaient été placés en quarantaine après avoir été en contact avec un malade infecté par le Covid-19. La Banque mondiale annonce, elle, un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays qui en ont besoin, qui ont besoin à prendre des mesures efficaces pour contenir l'épidémie. En France, le mois de mars s'annonce catastrophique dans différents secteurs. Juliette Drosse.
Dans le secteur de l'hôtellerie, le personnel fait face à des annulations en cascade. Moins 20% de chiffre d'affaires, en particulier dans les établissements prisés par les étrangers. Les traiteurs sont aussi durement touchés après le report ou l'annulation de nombreux salons. Pour les deux prochains mois, les carnets de commandes se vident. L'activité pourrait baisser de 30 à 40%. Par peur d'attraper le coronavirus, les clients désertent aussi les cafés, les boîtes de nuit. Situation particulièrement inquiétante dans les foyers de l'épidémie. Dans le Morbihan, par exemple, une trentaine de discothèques obligées de baisser le rideau jusqu'au 14 mars. 30 000 euros de manque à gagner par établissement. Idem pour les cinémas de l'Oise. Les exploitants doivent fermer les salles pendant les 10 prochains jours, avec la crainte de ne pas être dédommagés par leurs assureurs.
Et j'ajoute que les concerts du rappeur Nino, du groupe Trio et du chanteur M. Pokora sont annulés. Ils devaient se produire à l'Accor Hotel Arena de Bercy, qui compte une capacité maximale de 20 300 places. En Italie, le bilan continue de grimper. 79 morts, plus de 2500 personnes infectées. Aux États-Unis, 9 personnes sont décédées. Premier décès en Espagne et premier cas recensé en Argentine et au Chili. Dans l'actualité également, le Super Tuesday aux États-Unis pour choisir le candidat démocrate, Cédric Fesch. Vous êtes à Los Angeles, en Californie, dans un des QG de Bernie Sanders, résultat déterminant dans cet État.
Sur le papier, c'est Bernie Sanders qui est le favori en Californie parce que sa candidature coche le plus de cases avec la population, c'est-à-dire plutôt jeune et avec beaucoup d'hispaniques. Ils apprécient particulièrement le côté radical, révolutionnaire de Bernie Sanders et aussi ses promesses sur l'assurance santé pour tous et le coût des études. Mais pour l'instant, c'est Joe Biden qui est en train de remporter le plus de délégués dans ce Super Tuesday et c'est normal parce que, compte tenu du décalage horaire, ce sont les États les plus à l'Est qui ont fermé et qui donnent leurs résultats. Et ce sont des États qui sont plutôt favorables à Joe Biden. Mais lorsque les États un peu plus à l'ouest, comme la Californie et le Texas, vont tomber, ils peuvent tout changer parce qu'ils offrent quasiment la moitié du nombre de délégués qui sont en jeu sur ce Super Tuesday.
Aux États-Unis, au moins 25 personnes sont mortes après de violentes tornades qui ont frappé le Tennessee, notamment la région de Nashville. En France, dans le sud-ouest, 2 sexagénaires ont été blessés, dont un grièvement, par la chute d'un arbre sur leur camping-car. Jusqu'à 60 000 foyers ont été privés d'électricité après le passage de la tempête Myriam. Le biopic du général de Gaulle sort aujourd'hui au cinéma, réalisé par Gabriel Le Baumin. Olivier Chantreau l'a vu pour RMC.
Charles, mon grand amour.
Le film nous plonge dans l'intimité du général, nous raconte le destin d'une famille bouleversée par la guerre. L'occasion de découvrir Yvonne, femme amoureuse et mère aimante, incarnée en toute liberté par Isabelle Carré.
J'ai cette chance en fait de ne pas avoir de problème d'être dans l'imitation, vu qu'on n'a jamais entendu le son de sa voix. Et puis surtout, moi j'avais beaucoup de scènes à jouer avec la petite Anne, leur enfant trisomique. Ça m'intéressait beaucoup de découvrir cet univers-là.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition.
La légende du général se construit sous nos yeux alors qu'il est encore un inconnu et c'est peut-être bien ce qui permet à Lambert Wilson d'interpréter le personnage sans tomber dans la caricature.
C'est parce qu'un jeune homme, de 50 ans, que les gens ne connaissent pas, il est sous-secrétaire d'État aux armées, il a été viré par Pétain, il ne pèse pas lourd du tout, il n'y a aucun mythe qui le précède. C'était plus léger d'aborder ce personnage par ses débuts sur la scène publique internationale.
Un petit mois de la vie du général jusqu'à l'appel du 18 juin, ce jour de 1940 où son discours a rendu l'espoir aux Français.
Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.
Il était entre autres la voix dans l'oreillette de Chris Froome. Nicolas Porta, le directeur sportif d'Ineos, 6 victoires sur le Tour de France, est décédé hier à l'âge de 40 ans. Il a été victime d'une crise cardiaque.
Oui, Nicolas Porta, nous y reviendrons tout à l'heure. 40 ans, hein, 40 ans. 6h08, merci d'être avec nous à 6h08. Alors vous appelez 3216rmc.fr, allez-y, hein, j'attends vos appels. Je vous attends, vous avez des questions toujours à poser autour du coronavirus, il y a d'autres sujets de débat. Évidemment le 49.3, la loi, la réforme des retraites a été adoptée en première lecture, je dis bien en première lecture, elle va partir au Sénat et revenir à l'Assemblée nationale. Le Paris Saint-Germain interdit à Mbappé d'aller aux Jeux Olympiques, qu'en pensez-vous? Tiens, le coronavirus, Lorenzo est avec nous, 32 ans, dans le Morbihan. Bonjour Lorenzo.
Bonjour.
Ça va Lorenzo?
Ça va, ça va.
Bon, vous trouvez que tout le monde psychose complètement?
Ah ouais, non mais complètement.
Alors, vous n'avez pas totalement tort, parce que je voudrais quand même rappeler que pour l'instant, heureusement, le coronavirus n'a tué que 4 personnes. Hein. La dernière personne décédée avait 92 ans. Ce sont les personnes à risque, d'ailleurs, les personnes âgées. Hein. Il faut faire très attention avec les personnes âgées. Et dans les EHPAD, on est extrêmement prudent. Lorenzo, que vous vouliez-vous dire?
Alors moi, hier, j'ai un peu halluciné, quoi. J'ai été faire mes courses.
Oui.
Et dans le supermarché, j'ai croisé deux personnes avec des masques à gaz, mais des masques à cartouches.
Des masques à gaz à cartouches.
Ouais, 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 les trucs à cartouches. Une dame et un monsieur. Non, mais enfin, je sais pas. Même on a été dans les. Enfin, il n'y avait pas d'enfants. J'ai trouvé dans les magasins. C'était comparé à d'habitude. Enfin, c'était très très calme. Un supermarché,
oui.
Hein.
Oui.
Et même pour aller chercher des chaussures, on était avec notre fils. On a voulu aller chercher des chaussures et on a croisé aucun enfant dans les magasins.
Oui. Oui.
Les gens ne, je sais pas, c'était désert.
Oui.
Bon. Je sais pas. Je pense que les gens psychotent un peu. Enfin, moi, j'en fais pas tout un tralala. Bon. Je sais pas. Les gens sont dingues, je crois.
Bah, il suffit. Il faut prendre des précautions. Puis voilà. Hein.
Hein, oui, Lorenzo. On se lave les mains, on fait attention.
Oui, parce que l'affaire est sérieuse. Est 6h10. Merci Lorenzo.
De rien, bonne journée à vous.
Merci. L'OMS alerte sur le rapide épuisement des stocks d'équipements de protection dans le monde. Hein. Je ne parle pas particulièrement en France, parce qu'en France, face à la pénurie qui se profile, pénurie de masques ou de gel hydroalcoolique, bien hier, vous avez entendu le ministre de la Santé qui annonçait le déblocage, le déstockage de 15 à 20 millions de masques. Emmanuel Macron annonce la réquisition de tous les stocks et la production de masques de protection. Savez-vous qu'en France, la France possède actuellement 160 millions de masques en stock. Je dis bien 160 millions de masques en stock. Certains vendeurs, notamment de gel hydroalcoolique, profitent de la situation et augmentent les prix. Eh oui. Mais oui, la répression des fraudes va se pencher et enquêter sur les fortes augmentations de prix, notamment les prix des petits flacons de gel hydroalcoolique, des flacons de plus en plus rares dans les rayons. Pharmacies et distributeurs sont souvent en rupture de stock. Alors comment sont fabriquées ces solutions hydroalcooliques ? Reportage Thomas Chupin.
Alors c'est en Moselle par exemple à Forbach qui est installée l'une de ces usines de production de gel hydroalcoolique.
On est à peu près à 10 fois plus que d'habitude.
Lorraine est responsable de la planification chez Juva.
On est au maximum, on a ouvert des postes de nuit et le samedi. Normalement on travaillait que en journée de 6h à 22h. Là on est ouvert du coup du lundi 6h au samedi 20h.
Même ambiance dans les locaux de Fabien Bruno.
On va certainement franchir les 3000 préparations aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on double quasiment le volume de préparation qu'on demande.
Lui est sous-traitant pour les pharmacies, leur fournit le gel hydroalcoolique destiné aux salariés des officines.
Là, vous voyez, elle est en train de peser son alcool.
Fabrication très simple, explique-t-il.
C'est de l'alcool, de l'oxygéné, de la glycérine, et après, on complète le volume avec de l'eau classique. Pour à peu près, là, pour faire un litre, elle va mettre à peu près 2-3 minutes.
Pourtant, les pharmacies sont souvent en rupture de stock en ce moment. C'est pour cela que la Fédération des syndicats pharmaceutiques, que Philippe Besset préside, demande que les professionnels soient autorisés à produire.
Vous savez que le métier de pharmacien, dans son ancien temps, était un métier où on faisait beaucoup de préparation. On n'a pas complètement tout oublié. Et donc, on est en capacité de faire ce genre de préparation simple. On a l'ensemble des produits pour les faire, oui. Elle n'est pas inscrite au formulaire national. Donc, nous n'avons pas le droit de la fabriquer et de la mettre en vente. Donc nous avons demandé aux autorités de santé de nous autoriser à produire cette solution.
Et si les 22 000 pharmacies du pays produisaient rien qu'un litre par jour, cela résoudrait en partie la pénurie actuelle.
Bien, Thomas Chupin, reportage. Il y en a qui se frottent les mains. C'est Schumer.
Mais bravo.
Non, vous l'avez déjà faite, non?
Oui, mais elle est de saison.
Bien, Yoni est en Seine-Saint-Denis. Bonjour Yoni.
Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien?
Oui, très bien. Vous êtes à Neuilly-sur-Marne, hein?
C'est ça, exactement.
Ouais. Yoni, vous êtes dans le transport de personnes, VTC.
C'est ça. VTC, ouais, exactement.
Oui,
une entreprise de transport de personnes.
Oui.
Et en fait, j'ai remarqué une baisse d'activité depuis les deux dernières semaines, quoi, la semaine dernière et cette semaine-là.
Oui.
J'ai, moi, une trentaine d'annulations de clients étrangers qui étaient censés normalement venir sur Paris pour les vacances. Et ils ont annulé à cause du coronavirus et des news, en fait, qui passent dans leur pays en leur disant de se méfier des voyages, des avions.
Mais oui, il y a moins d'étrangers, bien sûr.
Confinés, voilà, c'est ça, exactement. Ouais.
Moins d'étrangers.
Alors qu'on n'est pas un des pays les plus contaminés du
non.
monde, mais bon, ils minimisent les risques en restant chez eux, je pense. Et nous, en tout cas, moi, pour mon secteur, ça m'impacte directement.
Bien. Merci, Yoni.
De rien, bonne journée Jean-Jacques.
Merci et continuez à être avec nous Yoni le matin.
Avec plaisir.
C'est un plaisir de vous savoir là Yoni. Vous appelez 3216rmc.fr. Géraldine Demory, le temps.
Un peu plus calme, mais il faut dire qu'hier la tempête Myriam a donné des rafales de vent exceptionnelles sur le sud-ouest. 134 km/h par exemple à Saint-Jean-de-Luz. C'est la cinquième fois depuis le mois de décembre qu'on y dépasse les 120 km/h. C'est un record. Record aussi à Pau avec 127 km/h. Bien, c'est du jamais vu pour un mois de mars. Donc aujourd'hui, on va avoir moins de vent, mais on a quand même de la pluie qui revient encore sur la moitié ouest ce matin, puis qui va s'enfoncer sur le pays cet après-midi. On retrouvera un temps un peu plus sec sur la Bretagne, Pays de la Loire et Cotentin, mais quand même toujours nuageux, et avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour demain. Les températures ce matin, ça reste froid. En revanche, elles vont bien remonter cet après-midi. On aura 10 degrés à Lille, à Paris, 13 à Brest, 14 à Bordeaux, jusqu'à 15 degrés pour Biarritz, Nice et en Corse.
À suivre dans Bourdin Direct, ce petit virus qui ressemble à la grippe, mais qui est destiné à contaminer la planète entière. Vous allez voir que les jeux vidéo surfent sur la vague coronavirus et que ça cartonne de plus en plus d'adeptes. Nina Godard, c'est déjà demain, 7h10 sur RMC.
Le coronavirus qui profite aux animaux sauvages comme le pangolin, la Chine interdit maintenant de les consommer. Vous saurez tout avec Géraldine Demory dans quelques minutes.
Mais tout de suite, un quiz très culturel. On va parler musique, littérature et on va même apprendre des mots grâce à Édouard Philippe. C'est dans une minute sur RMC.
RMC, Bourdin Direct.
On n'y comprend plus rien dans toutes ces mesures de précaution, nous écrit Isabelle. Alors on annule tous les événements, sauf la plupart des matchs de Ligue 1 et du Top 14. Logique, parce que c'est à ciel ouvert, dit Isabelle. Mais dans ce cas-là, le semi-marathon, je comprends pas, c'était pas en salle. Doudou, lui aussi, nous dit, chez nous, les écoles sont ouvertes. Dans l'école de mon fils, une maîtresse était en vacances dans le Morbihan. Elle a repris le travail le lundi, mais le mardi, la directrice lui a demandé de rester chez elle, a confiné aussi la classe, mais rien pour le reste de l'école, alors que cette maîtresse a été en contact à ne plus rien comprendre. Marie-Ève, depuis l'Irlande, nous dit « Moi, je comprends l'inquiétude, la peur que peut générer cette maladie parce qu'on entend et surtout on lit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pathétique et vraiment triste de voir une telle situation dans un si grand pays. Maintenant que la maison brûle, on appelle les pompiers », nous dit Philippe. Je pense clairement que l'État n'a pas fait assez pour stopper cette épidémie. L'Europe a fait le pari qu'on pouvait y arriver juste avec des masques. J'espère que ce sera le cas. Dimitri nous dit « Avec cette psychose, je suis en train de me demander si je ne devrais pas demander une autorisation préfectorale pour pouvoir embrasser ma femme. »
RMC, Bourdin Direct.
Professeur Magnan.
Professeur.
Jean-Jacques, allez. Quentin, Anaïs, Mathieu, c'est oui. Parti. Où a-t-on entendu hier soir ? Obstruction. Est-ce que j'ai une gueule d'obstruction ?
À l'Assemblée,
ou comme prévu, les motions de censure contre le gouvernement n'ont pas été adoptées, mais on a quand même eu droit au grand théâtre habituel.
Ce n'est plus la réforme des retraites, c'est la retraite des réformes. Ce sera votre Waterloo politique.
L'obstruction parlementaire, c'est vous.
Obstruction. Est-ce que j'ai une gueule d'obstruction, moi ?
Et vous êtes là à lui cirer les chaussures. Ah, merci notre bon maître. Ah, merci notre seigneur. Vous êtes d'esprit dictateur.
Le 49-3, ce n'est pas la faute de la majorité. Le 49-3, c'est vous.
J'avoue que vos gargouillis et vos cris me provoquent un certain plaisir à l'oreille.
Que personne ici ne fasse le cacaotesse.
Voilà, c'est ce que je vous répète tous les matins. Arrêtez de faire les cacaotesses. Et si vous aimez les expressions...
Il paraît qu'on dit cacatoès en plus.
Ouais, cacatoès en théorie. Oui, mais si vous aimez justement les mots un peu surprenants, qui en a placé le plus possible dans son discours hier à l'Assemblée ?
Édouard Philippe.
Mais oui, on écoute la réponse.
Ceux qui défendent le statu quo racontent bien trop souvent des calembres d'aine, dont on attend qu'ils payent le moment venu et de bon cœur pour notre impéritie, tout en allant cas à cas dans la douleur de rapetassage en rapetassage.
Les fameux rapetassages. Calembre d'aine, vous l'avez ?
Oui, calembre d'aine. C'est quoi ? Calembre d'aine, ce sont des fausses infos.
Exactement.
Exactement.
Et rapetassage ?
Ah ben, ça vient. Ben, rapetassé, hein.
Oui, exactement.
On répare, hein.
On le dit pas tous les matins, ça. Il faut
non,
l'admettre.
On peut pas dire.
À mon avis, il y avait un pari derrière tous ces mots qu'a placé Édouard Philippe. Passons à la culture. Faisons un point sur les conséquences culturelles du coronavirus. Quel classique de la littérature se retrouve soudainement en tête des ventes ?
La peste d'Albert Camus.
La peste d'Albert Camus, au spectaculaire des ventes en France et en Italie. Quel film sorti en 2011, lui, est en tête des téléchargements ?
Contagion.
Oui, Contagion. Toujours. De Steven Soderbergh, sorti en 2011. Et puis sur Netflix, quelle série documentaire est opportunément sortie fin janvier ? Là, vous ne l'avez pas vu, je suis sûr.
Non. Sur le SRAS ou...
Non, ça s'appelle Pandémie. Six épisodes documentaires qui racontent l'histoire de la lutte contre les virus à travers le monde. Et là aussi, ça cartonne. Enfin, ça devait forcément arriver, les chansons sur le coronavirus. D'abord, de quel pays nous vient la chanson qui fait un carton sur les réseaux sociaux?
Vietnam.
Ou du Mexique. Vietnam. Mexique. Non, du Vietnam. D'accord. On écoute. Dessin animé à un rythme entraînant et déjà des chorés reprises par les jeunes du monde entier sur le fameux réseau social TikTok. Mais oui, Quentin, pour l'instant, à mon avis, la meilleure chanson sur le sujet nous vient du Mexique.
C'est la plus drôle.
Mister Cumbia, une bonne cumbia mexicaine. Bah, peut-être que vous pourrez travailler la Corée si vous êtes en quarantaine chez vous, dans le salon, comme ça. Ça se travaille.
Mister Cumbia
pour le coronavirus.
Merci pour vos calembres d'un, mon cher.
Avec plaisir.
Il est 6h23. 6h23. Merci d'être avec nous. 32-16, la touche 5. Ça, c'est la machine à café, les capsules qui vont avec, Quentin.
Et vous envoyez le mot matin par SMS au 732-16.
À tout de suite.
RMC. Objectif Terre.
À tout de suite avec Géraldine Demory, qui a bien dansé d'ailleurs sur
la musique
cumbia. J'ai bien aimé les deux là.
Oui. Ah, c'était plutôt la vietnamienne. Géraldine.
Non, la vietnamienne.
Ouais. Bon, d'accord.
Géraldine, la protection animale pourrait profiter de l'arrivée du coronavirus. Oui. Avec l'interdiction du commerce et de la consommation d'animaux sauvages en Chine, des centaines de milliers d'animaux sauvages pourraient être épargnés.
Oui, aujourd'hui, on ne sait pas précisément d'où vient ce Covid-19, ce coronavirus. Le plus probable, c'est qu'il vienne d'un animal sauvage qui aurait été braconné et puis vendu vivant sur le marché de Wuhan pour être consommé. Mais lequel? Pour le SRAS, ça avait été rapide. En quelques jours, les chercheurs avaient identifié la civette comme la source de l'épidémie. Pour le Covid-19, donc on ne sait pas. Résultat, la Chine a décidé cette interdiction complète du commerce et de la consommation d'animaux sauvages. A priori, c'est une très bonne nouvelle pour ces animaux qui sont parfois menacés, comme le pangolin, par exemple, qui avait été suspecté un temps d'être à la source de l'épidémie. Le pangolin, c'est un petit mammifère inoffensif.
Regardez-le.
Il est tout mignon.
Il est mignon.
Bah, il est surtout très prisé par les Chinois pour ses vertus soi-disant aphrodisiaques et médicinales. Et il est tellement consommé en Chine qu'il est aujourd'hui en danger critique d'extinction. C'est un des animaux les plus braconnés au monde.
Est-ce que l'interdiction sera efficace?
Ah ben c'est toute la question. Parce que déjà, le trafic de pangolins est interdit depuis 2017, sans aucun effet. Consommer des animaux sauvages en Chine, c'est une tradition, c'est quelque chose de culturel. Donc c'est très difficile à changer. Et puis ça représente surtout un commerce très juteux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la Chine prend une telle mesure. Ça avait été le cas avec le SRAS. Et puis une fois l'épidémie passée, la consommation d'animaux sauvages avait repris très vite. Pourtant, c'est un vrai enjeu environnemental et sanitaire. Selon le projet Global Virome, il existe plus d'1 700 000 virus non découverts au sein de la faune sauvage. Et près de la moitié de ces virus pourraient représenter un danger pour les humains. En général, le virus meurt avec l'animal. Donc une solution, ce serait d'encourager, de développer l'élevage pour mieux contrôler les conditions de captivité et d'abattage de ces animaux.
Michael, merci. Merci Géraldine. Michael est à Dreux, en Eure-et-Loire. Bonjour Michael.
Bonjour, Mohamed.
Vous travaillez dans l'industrie pour une entreprise américaine, hein, c'est cela?
Dans l'industrie, c'est ça, oui, pour l'industrie automobile.
Pour l'industrie automobile. Et dans votre entreprise, il y a des mesures strictes qui sont prises.
Bah, à partir de lundi, il va y avoir des mesures très strictes.
Oui.
En fait, à l'entrée de l'usine, donc on va prendre les températures des salariés.
Oui.
Et l'usine est séparée par plusieurs ateliers, et chaque atelier rentrera par... une porte différente et les équipes ne devront pas se croiser.
Ah oui, les ateliers seront autonomisés en quelque sorte.
C'est ça, de manière à surtout pas avoir un cas dans un atelier pour pas perturber les productions, parce qu'on pourrait avoir carrément une fermeture du site.
Ouais, d'accord, je comprends. Pour éviter tout risque, oui. Dans voilà. Chaque atelier, on entrera par une porte.
Une porte différente et les différentes. Équipes ne vont pas se croiser non plus, quoi. C'est-à-dire que les équipes partiront 20 minutes avant que celle d'après arrive.
Ah d'accord. Aucune équipe ne se croisera.
Non, équipe de travail.
Bah dites-moi, c'est strict chez vous, hein, c'est... Remarquez pourquoi pas, hein, remarquez pourquoi pas, ça évite, pourquoi pas, la propagation du virus éventuelle, l'éventuelle propagation du virus.
Eh oui.
Merci Michael.
Bah merci beaucoup Jean-Jacques.
Et merci d'être avec nous le matin. Et merci de nous faire part de ce qui se passe chez vous. Allez-y, racontez-nous, 3216rmc.fr. Allez-y, vos témoignages sont utiles pour tout le monde, vous le savez, c'est comme ça que ça marche. Ici, le matin, faut-il ouvrir les boulangeries 7 jours sur 7 à Paris? La question est posée, Quentin Vidé.
Oui, posée par la Fédération des entreprises de boulangerie qui s'invite dans la campagne et qui interpelle les candidats. Elle rappelle ce sondage de l'Institut IFOP en février dernier. 62% des Parisiens sont favorables à une ouverture des boulangeries 7 jours sur 7. Vous savez qu'aujourd'hui, elles ont l'obligation de fermer au moins une journée par semaine. La Fédération estime que ce n'est plus du tout adapté aux habitudes de consommation. Elle demande donc l'annulation de cette règle, comme c'est le cas déjà en Corrèze, qui a abrogé en septembre dernier un vieil arrêté de 1996 qui obligeait les boulangeries du département à fermer une journée.
Mbappé privé de Jeux Olympiques, on va y revenir avec Thibaut Giangrande tout à l'heure, avec les dernières informations, Charles.
On va expliquer que c'est le club qui fait ce qu'il veut, le PSG, qui a envoyé une lettre à la Fédération Française de Foot pour dire qu'il refusait que Kylian Mbappé participe aux Jeux à Tokyo. Pourquoi ? À cause du calendrier. En effet, il y a l'Euro d'abord, fin juin, début juillet, et ensuite s'enchaîneront les Jeux Olympiques à Tokyo qui dureront jusqu'au 9 août, alors que la Ligue 1 aura déjà reprise. Bref, le PSG ne veut pas voir son joueur passer un été sans vacances. Pourtant, Mbappé, il y a quelques mois, avait fait part de son souhait d'y participer. L'image serait belle, évidemment, Kylian Mbappé au JO avec la France. Bon, après, il y a une inconnue.
Il n'y a pas que l'image, il y a aussi le résultat de la France aux Jeux Olympiques.
On n'a pas qu'Mbappé comme talent, notamment chez les jeunes.
Non, mais d'accord, mais enfin, c'est un plus. Hein.
C'est un plus. Ensuite, il y a débat. Est-ce que Mbappé pourrait peut-être participer plutôt au JO 2024 à Paris? Pourquoi pas? L'image là aussi serait belle. En tout cas, ça fait grincer quelques dents ce matin.
Il est 6h28. Qu'en pensez-vous? 3216rmc.fr. Vous nous dites, Mathieu.
À suivre, dans un direct. Oui. Comment parler de ce coronavirus aux enfants? Que comprennent-ils d'ailleurs de ce virus, de ce que peut représenter une épidémie? Nous sommes avec une psychologue pour enfants juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est 6h30, Julien Coudreau, les dernières informations. Julien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. 212 cas, 4 décès, un possible nouveau foyer détecté. Dernier bilan du coronavirus en France. Possible nouveau foyer détecté au sein d'une église évangélique de Mulhouse. L'Europe au secours de la Grèce, 700 millions d'euros et des renforts humains et matériels débloqués pour faire face à l'afflux de migrants à sa frontière. Nous serons en Grèce dans ce journal. Et puis qui pour défier Donald Trump? Duel Sanders-Biden en cours dans le Super Tuesday aux États-Unis. Le coronavirus a encore tué, 4e décès en France, un homme de 92 ans dans le Morbihan, 212 cas désormais recensés dans 13 régions et peut-être un nouveau foyer dans l'Est. 7 personnes infectées après avoir participé à un rassemblement organisé par une église évangélique à Mulhouse, Maxime Brandstatter.
Plusieurs milliers de fidèles venus de toute la France et de pays voisins comme la Belgique rassemblés pour jeûner dans l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Le pasteur Samuel Peter Schmidt qui a organisé l'événement religieux et lui-même malade depuis 8 jours. Il s'est fait dépister hier soir pour savoir s'il a attrapé le coronavirus et attend les résultats.
Il y avait à peu près 2000 personnes pendant une semaine. Nous passions la journée ensemble à prier, à chanter. C'est après l'événement que certaines personnes sont tombées malades et certaines d'entre elles ont été ensuite diagnostiquées positives. J'ai mon propre fils qui est positif. J'ai fait transmettre un message à toutes les personnes en leur demandant si elles avaient des symptômes. Toutes les personnes qui étaient là et qui manifestent des symptômes, vraiment qu'ils appellent le 15 là où ils se trouvent.
Tous les rassemblements religieux de l'église ont été annulés. Le culte a été diffusé hier soir sur Internet. À cette occasion, le pasteur a appelé tous les malades à se faire dépister.
Oui, la Direction Générale de la Santé invite surtout les participants à de l'événement qui présenterait des symptômes à contacter le SAMU en appelant le 15. Emmanuel Macron lui prévient, cette phase de l'épidémie va durer des semaines et même sans doute des mois. En visite au centre de crise du ministère de la Santé, hier, le président annonce la réquisition de tous les stocks et de la production des masques de protection, une façon de lutter contre la pénurie et la hausse des prix dans les pharmacies notamment, mais aussi contre les vols qui se multiplient dans les hôpitaux, Benoît Ballet.
au moins 8300 masques et 1200 flacons de solution hydroalcoolique volés dans les établissements parisiens. L'hôpital Bichat paie un lourd tribut avec 2000 masques dérobés entre ce week-end et lundi. Trois autres sites parisiens ont été touchés. Selon le Canard enchaîné, l'assistance publique Hôpitaux de Paris confirme seulement le vol de cartons de masques dans plusieurs hôpitaux. Mais il n'y a pas que la capitale qui est touchée. À l'hôpital de la Conception, à Marseille, 2000 masques chirurgicaux stockés au niveau du bloc central de l'établissement, dont l'accès est réservé au personnel de santé habilité et aux patients opérés, se sont volatilisés. Le stock reste suffisant pour assurer l'activité du bloc. De nouvelles commandes ont été passées pour réapprovisionner les services, assure la direction de l'hôpital marseillais, où, comme à Paris, la surveillance des stocks de masques et gel hydroalcoolique a été renforcée.
Masques et gel hydroalcoolique à disposition des électeurs dans les bureaux de vote les 15 et 22 mars prochains, annonce de l'Élysée, qui exclut toujours tout report ou annulation des élections municipales. Il est 6h33 sur RMC. La réforme des retraites adoptée, première lecture à l'Assemblée. Sans surprise, l'opposition n'a pas réussi à remporter suffisamment de voix pour renverser le gouvernement. Les deux motions de censure ont été rejetées. Le texte doit maintenant être examiné le mois prochain au Sénat avant un retour à l'Assemblée pour une adoption définitive prévue d'ici l'été. Deux blessés, dont un grave, dans le sud-ouest après le passage de la tempête Myriam. Un arbre est tombé sur leur camping-car dans la commune de Castelnau-Rivière-Basse, près de Mont-de-Marsan. Bilan bien plus lourd aux États-Unis, au moins 25 morts et de nombreux dégâts dans la région de Nashville, la capitale du Tennessee, frappée par de violentes tornades. Le Tennessee où l'on votait hier, jour de Super Tuesday, primaire démocrate dans 14 États simultanés, pour désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle. Selon les premiers résultats, Joe Biden est en tête dans 8 États. Son rival Bernie Sanders en remporterait seulement 3, mais le dépouillement est encore en cours. Nicolas Repère, le match entre les deux hommes risque de se poursuivre.
Sous les acclamations de ses soutiens à Los Angeles, Joe Biden arrive sur scène tout sourire. Vainqueur dans au moins 8 États sur 14, l'ancien vice-président de Barack Obama passe en tête des primaires.
C'est une bonne soirée qui risque d'être encore meilleure.
Pour lui, la course à l'investiture démocrate est véritablement lancée.
Il y a encore quelques jours, les médias et les sondages me disaient mort. Et puis, je l'ai emporté en Caroline du Sud et dans tout un tas d'États. Donc tout va bien, donc je peux dire que je suis plus que jamais vivant.
Devancé, Bernie Sanders ne s'avoue pas pour autant vaincu. Le sénateur de 78 ans se pose comme l'adversaire numéro 1 de Donald Trump.
Quand nous avons commencé cette course pour la présidentielle, tout le monde a dit « ça ne marchera pas ». Mais nous allons remporter l'investiture et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays.
Le duel entre les deux hommes s'annonce serré jusqu'à juillet prochain et la convention démocrate chargée de désigner le candidat du parti.
L'Europe va aider la Grèce à faire face à l'afflux de réfugiés en provenance de Turquie. Environ 20 000 migrants poussés à la frontière depuis la fin de la semaine dernière par Ankara, qui espère faire pression sur les dirigeants européens et ainsi obtenir du soutien en Syrie. Ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe seront déçus, prévient Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a promis hier d'apporter toute l'aide nécessaire à la Grèce pour gérer cette vague migratoire, Marie Monnier.
Un soutien financier d'abord. L'Europe promet 700 millions d'euros pour aider la Grèce à faire face à ce nouvel afflux, dont la moitié est disponible dès maintenant. De nouveaux moyens policiers pour renforcer les contrôles aux frontières. L'Europe peut fournir un navire, deux patrouilleurs, deux hélicoptères, un avion et 100 agents de Frontex supplémentaires si la Grèce en fait la demande. Car la protection des frontières est la priorité numéro 1 de l'Union européenne aujourd'hui, alors que la situation humanitaire est catastrophique. Toute personne entrée illégalement sur le sol grec est directement intercepté, parfois violemment, par les forces de l'ordre. Sur l'île de Lesbos, les ONG ont dû cesser leurs activités menacées par certains habitants, tandis que derrière les barbelés, de l'autre côté du fleuve Evros, en Turquie, au moins 20 000 personnes attendent actuellement de pouvoir mettre un pied en Europe.
Marie Monnier en Grèce pour RMC. À Bruxelles, les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union sont aujourd'hui conviés pour une réunion de crise sur ce sujet. Le monde du cyclisme en deuil est sous le choc après l'annonce du décès de Nicolas Portal, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans seulement. Il dirigeait l'équipe Ineos, anciennement Sky, vainqueur de 7 des 8 derniers Tours de France. Et puis du football ce soir, première demi-finale de Coupe de France. Lyon reçoit le Paris Saint-Germain, coup d'envoi 21h10 sur RMC. Les courses du côté d'Amiens aujourd'hui, Mathieu.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 11, Dexter Cato, outsider numéro 15, Colt des Essarts, le 11 et le 15.
Lyon, Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé, Thibaut Giangrande. Bonjour. Kylian Mbappé qui veut aller aux Jeux Olympiques. Il a envie d'un fabuleux triplé. Il a envie Ligue des Champions, Euro avec l'équipe de France et Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Ben, je le comprends, son club ne veut pas.
Voilà, on est sûr qu'il ne fera pas le triplé. En tout cas, il y a peut-être les deux premiers, mais les JO non, parce qu'il les regardera comme vous et moi, en fait, Jean-Jacques, devant la télé.
Mais il n'y a plus de solution.
En fait, c'est le Paris Saint-Germain, son club, qui a envoyé la semaine dernière une lettre à la Fédération française de football en expliquant qu'il ne voulait pas libérer son joueur pour les JO cet été. Le club, en fait, explique que l'événement ne figure pas au calendrier imposé par la FIFA, la Fédération internationale, pour libérer ses joueurs. C'est sur des périodes bien précise, les JO n'en font pas partie. Et hier, Didier Deschamps a réagi à cette décision du Paris Saint-Germain. Et pour le patron des Bleus, pas de problème.
Les Jeux Olympiques, c'est pas n'importe quoi, mais c'est dans une période qui est hors date FIFA, avec des conditions climatiques pas faciles là-bas. Les clubs, ce sont les employeurs des joueurs, à partir du moment où ils prennent une position et qu'ils sont dans leurs droits. Voilà.
Alors qu'en pensez-vous ? Allez-y, 32-16, rmc.fr. Ouais, enfin, il se mouille pas trop, Didier Deschamps.
Non, mais c'est Paris qui paye, c'est Paris qui décide. C'est ça
le Paris paye, Paris décide, mais enfin, le joueur a son mot à dire aussi. Il a envie.
Il a envie d'aller au jeu. Il avait prévenu quand même qu'il n'irait pas au clash. Il a dit que jamais on ne libère pas.
Je suis pas certain que ça le satisfasse vraiment. Je vous le dis tout de suite. Enfin, bon, on verra bien. Mbappé qui rêvait d'un titre olympique avec les Bleus. Et puis, autre information là, beaucoup plus dramatique, Nicolas Portal, le décès du directeur sportif de l'équipe Ineos, l'équipe des vainqueurs du Tour.
Mais c'était l'homme qui murmurait à l'oreille de Chris Froome, vous savez, les oreillettes sur le Tour. C'était lui qui était dans la voiture, le directeur sportif de Froome, qui a gagné 4 Tours de France avec Nicolas Portal dans la voiture. Il a gagné le dernier Tour de France aussi avec Bernal, le Colombien. Ça avait été un coureur à la carrière modeste. Et il avait un problème cardiaque, c'est pour ça qu'il avait arrêté sa carrière en 2009.
Ah bon ?
Et en 2010, il a rejoint le staff de l'équipe Sky, qui est devenu Ineos. Et donc, il a gravi les échelons et c'était devenu l'un des tauliers de cette équipe qui
Il était jeune.
40 ans. Il est mort hier à 40 ans chez lui en Andorre.
Merci, il est 6h39. Merci Thibault. Les municipales approchent. Pour l'instant, elles sont maintenues à moins de 2 semaines. Nous continuons notre itinérance municipale 2020.
Municipal 2020.
Vous savez que nos reporters sont en France pour faire vivre ces élections un peu partout, aller à votre rencontre et à la rencontre des maires. Et cette semaine, direction le Sud-Est avec Victor Jouanin et Martin Cadoré.
Ce matin, nous sommes à Signes, dans le Var. Souvenez-vous, l'été dernier, le maire de cette petite commune s'était fait tuer en voulant faire cesser des dépôts de gravats illégaux. Il était devenu, malgré lui, le symbole de la lutte pour l'environnement. Mais à moins de 2 semaines des élections municipales, son bilan en la matière est plus que jamais contesté.
Je vais vous montrer les endroits qu'il y a, c'est le dépotoir.
Stéphane Michel emprunte la route de Signes qui traverse la Garrigue. 7 mois après la mort de son père, rien n'a changé.
Voilà, donc je ralentis là, tu vois. Il y a un dépôt contre un arbre. Des bouteilles, des canettes, il n'y a rien qui a changé. Les gens, ils continuent à jeter comme si c'était le de la colline, c'était un dépotoir, on peut tout jeter.
Au marché de Signes où il distribue ses tracts tous les jeudis, Jean-Marc Minichini, le candidat soutenu par le RN, promet de résoudre le problème.
On a prévu de laisser les déchetteries ouvertes 24 heures sur 24 et nous envisageons, lorsque nous aurons en charge la gestion de la municipalité, de régulièrement nettoyer le plateau de Signes.
La prolifération des décharges sauvages a été largement mise en lumière par la mort de Jean-Mathieu Michel, au détriment d'autres problèmes environnementaux, regrette Irène, retraitée signoise.
Monsieur Michel se disait défenseur de l'environnement, sauf qu'il a aussi autorisé les carrières, que nous avons des passages de camions, quelque chose d'épouvantable.
Des camions qui vont et viennent à travers le bourg. Leur destination, les deux carrières, situées à quelques kilomètres. Yves Reynard nous y emmène.
On a l'impression de devenir la poubelle du Var. C'est ce qui nous énerve un peu, d'ailleurs.
Cet agriculteur a grandi à Signes. Depuis une colline près du village, il nous montre les reliefs du parc naturel régional de la Sainte-Baume.
Là, vous voyez la carrière Lafarge, le site d'extraction des granulats Lafarge. Ça défigure beaucoup le paysage et pour l'image de la Sainte-Baume, c'est pas génial, quoi.
Yves s'est engagé sur la liste menée par Hélène Verduin. Par ailleurs, présidente de l'association Signe Environnement, elle lutte contre la présence d'une usine à goudron.
3 ans et demi qu'on se bat bec et ongles pour empêcher l'exploitation de l'usine. Il faut savoir que c'est la mairie actuelle qui a signé le permis de construire, donc la municipalité qui se prétend championne de l'environnement.
C'est Alain Reichart, l'ex-adjoint du défunt maire, qui a pris sa succession. Il se présente lui aussi à l'élection et balaie les critiques de ses concurrents d'un revers de main.
Alors aujourd'hui, la grande mode, c'est oh là là, le goudron, oh là là, la carrière, les camions. Alors, soyons cohérents. La carrière, elle est à 7 km. Le village par lui-même ici, le bourg, il en souffre pas trop. Il y a des camions qui passent. Bah, il faut bien les transporter, hein.
Pour lui, défendre l'environnement, c'est d'abord contrôler l'urbanisme. Il espère donc être réélu dès le premier tour, certain que le bilan de Jean-Mathieu Michel et le sien seront reconnus par les Signois.
Il est 6h42, le coronavirus, allez-y, 3216rmc.fr, vous n'hésitez pas à vous appeler. Nous sommes avec Florence Millot, psychologue pour enfants à Paris. Florence Millot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié « Comment parler à ses enfants » aux éditions Albin Michel et nous posons la question, comment parler du coronavirus à nos enfants? Vos réponses dans 2 minutes sur RMC et RMC Découverte, 6h43.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct. Laurence Millot, bonjour.
Bonjour.
Merci donc d'être avec nous. Comment parler à ses enfants du coronavirus? Tout dépend de l'âge de l'enfant, hein, Florence Millot, j'imagine. Avant 7 ans, que doit-on dire à son fils ou à sa fille qui pose des questions sur le coronavirus?
Alors justement, en général, avant 7 ans, ils n'en posent pas énormément, donc c'est
oui,
important
parce qu'ils sont
de
dans
pas
leur monde.
Voilà, ils sont auto-centrés, c'est-à-dire le plus important, c'est papa, maman, mon quotidien. Donc oui, tant que tout ça n'est pas bousculé, même s'ils le disent avec des mots, mais presque un mot ludique, coronavirus, il n'y a pas vraiment de représentation, ni même du virus d'ailleurs dans leur imaginaire.
Coronavirus, on doit expliquer quand même ce que veut dire ce mot, non, à ses enfants.
Le problème, c'est que plus on va expliquer, en tout cas pour un jeune enfant,
de moins de 7 ans,
plus il va se poser des questions qu'il ne se posait pas avant, et plus il peut s'inquiéter finalement.
Donc il ne faut rien, il ne faut pas répondre.
Bien sûr, on peut lui expliquer qu'un virus, c'est contextualisé. Par exemple, quand il a la grippe, quand il a la varicelle ou quand il est malade, forcément, il reste à la maison, il se repose. Il y a des copains aussi qui peuvent rester à la maison, mais sans forcément l'alarmer, parce que le virus et la maladie, pour l'enfant, c'est assez imaginaire. Donc, autant les attentats, ça va les toucher, parce que c'est la représentation du méchant, évidemment. C'est le conte qui devient réel. Alors que là, la maladie, c'est quand même beaucoup plus rare que ça touche les jeunes enfants.
Oui, le virus, c'est très bien, la varicelle. C'est très bien comme comparaison, hein. La varicelle, d'ailleurs, qui est beaucoup plus dangereuse pour les adultes que pour les enfants. Même chose pour le coronavirus, d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est une parenthèse refermée. En fait, il ne faut pas s'apesantir lorsque l'enfant a moins de 7 ans sur le virus, sur les conséquences. Il faut vite éluder la question, c'est cela ?
Voilà.
Hein, bon. Et quand on a plus de 7 ans?
Alors, quand on a plus de 7 ans, donc on va dire entre 8 et 15 ans, quand on est beaucoup plus exposé aux réseaux sociaux et que là, évidemment, il y a des images qui circulent.
Et évidemment, qu'on regarde la télévision, que... Enfin, bon,
des vraies et des fausses images, d'ailleurs.
Oui.
L'intérêt, c'est d'aider l'enfant à faire le tri aussi dans ce qu'il voit. Par exemple, est-ce que tu penses vraiment que toutes les vidéos sont vraies? Est-ce que dans l'école, on en parle? Est-ce que ça te fait peur? Pour jauger un petit peu si il y a quelque chose déjà qui se passe en lui ou pas. Parce qu'encore une fois, s'il ne se passe rien, ça ne sert à rien de faire débat. Même si dans la cour d'école, ils en parlent un petit peu, mais ils en parlent comme ça, mais sans fondement, entre guillemets. Donc, une fois qu'on a fait le tri, c'est aussi important de contextualiser, de dire, tu vois, dans l'histoire, mais même dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des virus. Il y a eu la peste, il y a eu le choléra, la grippe H1N1, pour lui montrer qu'un virus, ça naît, mais aussi ça meurt. Donc, à un moment donné, ce virus, il va aussi disparaître.
Oui, bien expliqué,
et ça lui permet
que ça
tout simplement.
Voilà, que ça naît et que ça meurt. Mais voilà. Si l'école est fermée, quand même, il peut s'inquiéter.
Ah bah, en général, l'enfant est très content de rester à l'école. et même certains adultes
ça dépend,
aussi,
hein,
de rester à la maison, pardon.
Oui. Bon.
Il n'y a pas de crainte du moment que ce n'est pas un copain qui est touché véritablement par la maladie qu'il connaît réellement. Du moment que c'est fantasmatique, ça ne le touche pas particulièrement.
Ça ne touche pas particulièrement.
Ensuite, évidemment, si c'est un voisin, là c'est différent. On va lui en parler comme dans toute maladie.
Oui, mais les images sont fortes. Le port du masque, par exemple, ça peut faire peur. Est-ce que ça peut faire peur à un enfant ?
Alors, le masque, tant qu'il ne touche pas les yeux, l'expression du visage, ce n'est pas forcément, encore une fois, quelque chose qui leur fait peur. D'autant plus que, bon, en tout cas, avec mon point de vue de parisienne, on a l'habitude de voir aussi des touristes avec des masques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui les... Au contraire, ça ressemble aussi au masque du bricolo. Ce n'est pas forcément quelque chose qui les... Du moment que le regard est là...
Et puis, peut-être faut-il aussi en profiter pour lui expliquer les gestes simples, non ?
Voilà, se laver les mains.
Florence Millot.
Avoir une petite fiole presque magique antiseptique.
Oui, d'hydroalcoolique. De solution hydroalcoolique, oui.
Excusez-moi. Non. Éventuellement une petite huile essentielle.
C'est un antiseptique, quelque sorte.
Une petite odeur pour vraiment
se laver les mains avec du savon régulièrement.
Voilà.
C'est l'occasion ou jamais de lui donner l'hygiène.
Voilà. Hein,
parce que chez les pré-ados, l'hygiène, on oublie de se laver les mains, on oublie parfois de prendre la douche, on oublie. Hein, c'est l'occasion jamais de rappeler les règles d'hygiène, non ?
Voilà, en tout cas chez les grands ados, on va dire les 17-25, là on voit qu'ils portent le masque plus facilement, je pense aussi en lien avec les réseaux sociaux, donc eux-mêmes sont très très portés sur l'hygiène, les mains, etc.
Oui, les enfants ne sont pas particulièrement traumatisés.
Non, encore une fois, l'enfant n'est pas l'adulte, donc il n'a pas les mêmes préoccupations que nous.
Bien sûr.
Il est bien à la maison.
L'enfant doit rester l'enfant.
Voilà.
Chacun à sa place.
Voilà.
On est d'accord, Florence Millot ?
Oui, bon. Monsieur Bourdin.
Merci. Comment parler à ses enfants ? Merci. Livre très, très intéressant, Florence Millot. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. Caroline est à Savignac-sur-Lèze. C'est dans le Lot-et-Garonne. Caroline, bonjour.
Bonjour.
Alors, les aides à domicile. Vous avez raison, oui. Caroline, de poser la question. Qu'est-ce que vous demandez ?
Eh bien, moi, je trouve un petit peu étonnant que nos dirigeants ne pensent pas à ceux qui sont vraiment les premiers exposés. C'est vrai, ce sont beaucoup de personnes âgées qui sont atteintes, mais elles sont souvent en contact, étant donné que ce sont des personnes âgées, avec l'aide à domicile. Nous sommes les premiers.
Caroline, précisons les choses. Les personnes âgées ne sont pas plus atteintes que les autres, sauf que lorsque le coronavirus infecte une personne âgée, les conséquences peuvent être plus graves, pour une raison simple, c'est que la personne âgée est plus fragile.
Elle a déjà des pathologies, comme vous le dites souvent. Vous parliez tout à l'heure des EHPAD, mais c'est pareil, nous, à domicile, nous avons donc une chaîne, c'est-à-dire l'aide à domicile. Souvent, l'infirmière à domicile qui vient préparer les piluliers. Ensuite, il y a souvent aussi des interventions des SIAD, de mes collègues aides-soignantes, qui viennent les aider à prendre une douche, à faire leur toilette.
Caroline, si vous pouvez, mettez un masque lorsque vous allez chez un patient.
Pour ça, il faudrait qu'on en ait.
Oui. Des masques vont être distribués, si j'ai bien compris, dans les EHPAD. Est-ce que ces masques seront distribués à
très
celles et
question.
Ceux qui vont à domicile.
Très bonne question.
Nous allons voir et nous aurons la réponse, Caroline.
Quand j'en ai parlé vendredi soir à ma hiérarchie, je n'ai eu aucune réponse.
Oui. Bon. Mais écoutez,
c'est ça qui est ennuyeux, parce que moi, je vais contaminer beaucoup, beaucoup de foyers.
Non, vous avez contaminé. J'espère que vous n'avez pas le coronavirus,
Caroline. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, j'ai pas dit que j'ai contaminé. J'ai dit contaminer beaucoup de foyers et mon propre foyer.
Mais vous n'allez pas contaminer, Caroline. Vous n'avez pas le coronavirus.
Si vous
l'attrapez, oui. Je vous souhaite de ne pas être infecté. Caroline.
Non, j'en rigole un peu aussi parce que ça me rappelle.
Allez voir votre pharmacien.
Eh bien, il n'en a plus.
Oui, il n'en a plus. Il n'en avait plus hier ou avant-hier, mais il va en recevoir là.
Depuis la semaine dernière, il n'y a plus rien sur le Villeneuve et Maine-et-Loire. Il n'y a plus rien.
Il va en recevoir, Caroline. Alors allez-y.
Oui, mais bon, moi personnellement, bon, je ne fais pas une psychose, parce qu'il y a quand même. Faut arrêter.
Si vous pouvez vous procurer un masque, n'hésitez pas quand même.
Oui. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas des premiers intervenants, parce que quand j'ai entendu que les EHPAD vont avoir tout un tas de mesures, et je suis un petit peu quand vous avez reçu la présidente des EHPAD, elle l'a dit, le maintien à domicile aussi doit être associé.
Bien sûr. Merci Caroline.
Voilà.
Merci beaucoup Caroline. Il est 6h54. Merci.
Merci.
Au revoir. 6h54.
Ce coronavirus qui cartonne dans les jeux vidéo aussi. C'est déjà demain, Nina Godard dans un instant sur RMC.
RMC,
Bourdin Direct.
Faut-il ouvrir les boulangeries 7 jours sur 7? C'est une demande de la Fédération des entreprises de boulangerie pour le secteur parisien. Pierre-Marie nous dit les gens sont formidables quand même. Ils veulent l'ouverture 7 sur 7, mais pas grand monde ne voudrait travailler le samedi et le dimanche, commencer très tôt ou finir très tard. Moi, je bosse dans la restauration et nous avons exactement le même problème. Mais ça existe déjà, répond Philippe. Il y a beaucoup de petites boulangeries qui effectuent des livraisons dans les hôtels, les restaurants et qui doivent fournir aussi des clients professionnels 7 sur 7 et qui viennent travailler même le jour de fermeture. Fermeture du magasin. Que les commerces soient ouverts toute la semaine devient une exigence, regrette Daniel. Toujours avoir plus, il faut bien vendre. Christophe, le boulanger, remonté comme une pendule. Comment feront les petites boulangeries? Bien sûr, les grosses et les chaînes vont pouvoir se permettre en faisant tourner le personnel. Mais nous, on ne va pas y arriver. Ça va être sympa, la vie de famille. Les clients qui demandent ça, est-ce qu'eux, ils travaillent tous les jours? De toute façon, ce n'est pas aux clients de décider, répond Damien. Il faudrait que les boulangeries puissent décider d'elle-même. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-16 ce matin.
RMC.
C'est déjà demain.
Allez, c'est déjà demain. Nina Godard. Nina, en pleine épidémie de coronavirus, des jeux vidéo sur des pandémies font un carton.
Voilà. Est-ce que vous connaissez Plague Inc?
Plague Inc?
C'est un jeu vidéo sur une pandémie et le but, c'est pas de se battre contre le virus, hein. Au contraire, c'est de le propager et de tuer tous les humains. Et ce jeu payant, il a été créé il y a 8 ans. C'était déjà un grand succès avant le coronavirus. Oui. Il y avait plus de 130 millions de joueurs dans le monde. Mais ces dernières semaines, ça a explosé. En janvier, le nombre de joueurs a augmenté de 250%. Et Plague Inc, ce jeu, est devenu le plus téléchargé, le jeu payant le plus téléchargé de l'App Store. C'était fin février, dans plus de 50 pays, dont la Chine. Et justement, la Chine, ça n'a pas du tout plu aux autorités chinoises. Elles viennent d'interdire le jeu dans le pays. Du coup, Apple a dû le supprimer de l'App Store chinois. Et la plateforme Steam, qui est un site très très connu de jeux, a dû interdire les téléchargements depuis la Chine.
Qu'est-ce qui dérange Pékin ?
Il n'y a pas eu d'explication officielle, mais on peut dire déjà que d'autres jeux de pandémie ne sont pas interdits, mais c'est ceux où on combat le virus plutôt que de le propager. Alors hier, j'ai testé un de ces jeux pour voir un jeu qui ressemble à Plague Inc. Ça s'appelle Infection BioWar. C'est une appli gratuite.
BioWar. C'est pour se détendre après avoir parlé du jeu.
On y joue un petit peu. Donc voilà, les téléchargements aussi explosent, hein, selon Apani. Et pareil, pour gagner, il faut éradiquer l'humanité avec notre virus. Alors, bilan, c'est très, très addictif. Et le truc un peu flippant, c'est qu'une très bonne stratégie pour gagner, c'est un peu de copier le coronavirus, en fait. C'est-à-dire de lancer un virus vraiment très, très contagieux, mais pas trop mortel. Au début, un virus qui aurait les symptômes d'une maladie banale, comme une grippe, par exemple. Du coup, les autorités ne s'inquiètent pas outre mesure. Elles ne stoppent pas le trafic des avions et des bateaux. Elles ne se mettent pas à fond dans la recherche d'un vaccin. Comme ça, mon virus, il a continué à se transmettre tranquillement. Là, vous le voyez sur RMC Découverte. Mmh. Et une fois que j'avais infecté comme ça tous les continents, toutes les îles, paf, j'ai fait muter mon virus, je l'ai rendu très létal, et là, tous les humains sont morts, et Nina,
bravo Nina,
appelé comme ça.
Merci Nina. Est-ce qu'on risque d'attraper le virus en allant voter au municipal?
Non. En tout cas, non. Pas sur les bulletins de vote, les stylos, etc. Oui. Le risque est quasi inexistant, nous disent les spécialistes. En revanche, le virus fait peser une menace sur les municipales. D'abord sur l'abstention. Certains pourraient craindre de se rendre dans les bureaux de vote. Et puis, on pourrait avoir du mal aussi à trouver des volontaires, des bénévoles pour tenir les bureaux de vote, pour dépouiller. Mais pour l'instant, le gouvernement assure que les municipales auront bien lieu.
Est-ce qu'il y a un risque de pénurie de pâtes, Anaïs?
Les ventes ont considérablement augmenté, mais le patron de Panzani tient à rassurer la France. Ça, selon lui, 2 mois de stock de pâtes, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas.
Ah, ouais.
Même s'il faut noter que les marques vont cependant favoriser les produits basiques comme les coquillettes et les spaghettis, apparemment, dans les prochains jours. Donc, si vous êtes fan de farfalle, faudra attendre.
Stéphanie
Oui, allô ?
Oui, vous êtes à Portes-les-Valences dans la Drôme, c'est hein, Stéphanie, c'est ça.
C'est ça,
aide-soignante, Stéphanie, vous êtes avec nous à la télé ou à la radio le matin ?
Les deux. À la radio et avant de partir au travail, j'étais à la télé.
Voilà, la télé et ensuite la radio, ce que font beaucoup de nos auditeurs téléspectateurs. Stéphanie, vous avez gagné, merci d'abord d'être avec nous, je vous remercie, et vous avez gagné votre machine à café, les capsules qui vont avec, Stéphanie.
C'est super, hier c'était mon anniversaire, donc ça, c'est un cadeau.
Ah bah ouais, ça tombe bien, bah, je suis content de vous le faire alors, et de vous l'envoyer.
Merci beaucoup.
Vous allez recevoir ce cadeau très vite. Merci Stéphanie.
Merci à vous Jean-Jacques.
Merci, au revoir.
Belle émission, merci.
Merci.